Des épreuves intenses, des éliminations surprenantes, un gagnant que personne n'a vu venir. Quelle première saison à Survivor Québec! À une nouvelle saison, on dit deux claps. Wow! Survivor Québec, lundi au jeudi 19h et dimanche 20h sur Nouveau.
Ce printemps, 20 personnes tenteront de remporter jusqu'à 100 000 $. Parmi eux, des traîtres qui assassineront chaque soir un des invités. Les fidèles réussiront-ils à les démasquer à temps?
Les traîtres, lundi 20h sur Nouveau, nouveau.ca et sur l'application.
Cette balado-diffusion est une présentation du sommet Coors Light. Ne manquez pas l'émission de divertissement sportif déjanté sur les ondes de RDS.
Salut tout le monde, bon début de semaine. Stéphane Leroux qui vous souhaite la bienvenue à ce balado-diffusion, cette balado-diffusion qui s'intitule « Sur la glace ». C'est notre édition numéro 24 de la saison et c'est déjà notre dernière. Et oui, c'est un projet qu'on a mis en marche au début du mois d'octobre et qui vous aura accompagné comme ça tout au long de la saison. Alors, on espère que cette dernière émission va vous plaire. L'heure est au bilan du côté de la Ligue américaine de hockey, évidemment, avec la fin de la saison du Rocket de Laval qui s'est soldé un peu à l'image de la saison fin de semaine. Alors, on va en parler dans quelques instants avec Raphaël Doucet. On est rendu à l'étape des demi-finales dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. On connaît maintenant les quatre équipes qui vont faire partie du carré d'as, puisque hier, les Tigres de Victoriaville ont éliminé les Voltigeurs de Drummondville, dirigés par Dominique Ducharme. On a gardé d'ailleurs un extrait d'entrevue avec Dominique Ducharme où il parle de son avenir. On sait qu'il y a beaucoup de rumeurs qui le concernent. Donc, en demi-finale, les Tigres de Victoriaville qui vont affronter le Titan d'Acadie Bathurst. On va s'entretenir également un petit peu plus tard avec le directeur général du Titan, Sylvain Couturier. Dans l'autre demi-finale, l'Armada de Blainville-Boisbriand, premier au classement général en saison, va se mesurer à l'équipe Cendrillon des séries demi-finales, des séries de la Ligue de hockey junior majeur du Québec en demi-finale, soit les Islanders de Charlottetown. On va faire un petit peu le tour également de ce qui se passe avec l'équipe canadienne des moins de 18 ans. Le tournoi qui commence jeudi, c'est un tournoi qui est très suivi par les recruteurs de la Ligue nationale. Plusieurs d'entre eux sont déjà en Russie, d'ailleurs, pour suivre ce tournoi, qui est le dernier gros tournoi avant la séance de sélection de la Ligue nationale. On va parler un petit peu de Midget 3, on va faire le tour des actualités. Alors, beaucoup, beaucoup de matériel à notre dernière émission aujourd'hui, mais sans plus tarder, on va rejoindre celui qui a été très souvent avec nous tout au long de la saison, Raphaël Doucet, analyste des matchs du Rocket de Laval à la station de Radio 91.9 et collaborateur au RDS.ca. Bon lundi, Raphaël.
Salut Stéphane.
Écoute Raphaël, je pense qu'il y a un proverbe qui dit « toute bonne chose a une fin ». Je suis pas sûr que ça s'applique vraiment là, dans le cas du Rocket de Laval. C'est une saison, on va le dire, là, misérable, une saison à oublier. Et c'est tellement dommage parce qu'il y avait tellement d'engouement alentour de l'avenue de cette équipe à Laval en début de saison. Nouvel amphithéâtre, le club école du Canadien qui s'amène en banlieue comme ça. Ça a bien commencé. Mais quand tu regardes le constat final, puis j'ai lu ta chronique sur la RDS.ca et j'ai été à même de le constater pour avoir assisté à une vingtaine de matchs là, du Rocket cette année parce qu'on en a présenté plusieurs sur les ondes RDS. 30e rang au classement général, il n'y a pas personne qui avait vu ça venir en début de saison.
Non, surtout, bon, on avait engagé quand même des bons joueurs autonomes pour aller aider le Rocket de Laval l'été dernier, le Peter Allen, Matt Tormina et Byron Fraze. Mais ça a bien débuté également avec une fiche de 9-5-2 après 16 matchs, mais le bateau a rapidement là, pris l'eau. Et puis pourquoi? Ben oui, il y a eu des rappels importants, notamment là, Byron Fraze et puis Nicolas Delaurier au début novembre. Et ensuite, il y a eu la blessure de Nikita Sherbak et un autre rappel avec Daniel Carr. Donc après seulement 6 semaines de jeu, ben le Rocket était déjà privé là, de 4 de ses meilleurs attaquants. Et puis, en raison du manque de talent et de profondeur chez la relève du Canadien, on n'a jamais été vraiment capable de les remplacer. Il y a eu des blessures à travers tout ça, mais ultimement, là, c'était simplement que le Rocket de Laval, privé de ses meilleurs éléments, n'a pas été capable de s'en remettre.
Moi, ce qui me déçoit le plus, c'est la colonne des victoires à Laval, dans la Ligue américaine. On le sait, la façon dont les équipes voyagent dans la Ligue américaine, c'est pas évident de gagner à l'étranger, même si, bon, les Marlies de Toronto ont réussi à en gagner 30 sur la route. Il en demeure pas moins là, qu'à l'étranger, disons que ça aurait pu être acceptable, la façon dont le Rocket s'est comporté. Mais gagner seulement 10 matchs sur 38 à la maison, les rappels, là, je veux pas dire que c'est des excuses qu'on s'est données, mais la situation dont tu viens de parler, elle était vraie à l'étranger comme à la maison. Pourquoi on n'a pas été capable de s'appeler s'approprier le domicile magnifique qui est la Place Belle à Laval pour une équipe de la Ligue américaine. On a l'impression que le Rocket ne s'est jamais senti à l'aise sur sa patinoire.
Non, parfaitement d'accord avec toi. Et puis, bon, je pense que les équipes adverses étaient grandement motivées parce qu'il y a des équipes dans la Ligue américaine qui, il faut le dire, là, jouent dans des amphithéâtres désuets, dans des vestiaires désuets. C'était pas le cas vraiment à la Place Belle. Alors, ils étaient vraiment grandement motivés chaque fois qu'ils allaient à Laval. Mais quand même, le Rocket à domicile, seulement 10 victoires en 38 matchs. Et puis moi, ce que j'explique mal, c'est le nombre d'effondrements en troisième période à domicile. Pas seulement en fin de saison, alors que plusieurs joueurs étaient à Montréal, mais en début de saison, j'ai des exemples concrets contre Utica, contre Binghamton en novembre. Le Rocket menait en troisième période, s'est effondré. Et il y a eu également des effondrements alors que le pointage était égal. Donc, les joueurs n'ont pas été capables vraiment de maîtriser pleinement leurs émotions à domicile. Et puis, les entraîneurs qui avaient le dernier changement à domicile n'ont pas été capables vraiment de s'ajuster, n'ont pas été capables de calmer leurs joueurs qui étaient vraiment là, trop remplis d'émotions lorsqu'ils jouaient à Laval. Donc, un peu tout le monde là, a ses torts pour expliquer les déboires à domicile. Et puis, si seulement le Rocket avait été aussi respectable, je vais dire, sur la route qu'à domicile, ben il aurait été dans la course aux séries beaucoup plus longtemps que prévu. Mais finalement, ça s'est pas passé comme ça. Puis oui, il y a eu les rappels à Montréal, mais quand même, on n'a pas été capable de s'adapter avec les nouveaux joueurs et puis les recruteurs du Canadien et du Rocket. Bien, plusieurs joueurs qu'ils ont mis à l'essai n'ont carrément pas fait le travail ou étaient carrément pas de calibre.
Et on avait de la difficulté quelquefois à savoir d'où ces joueurs-là venaient. Ils en sortaient, ça avait l'air de porte tournante à un certain moment. Là, il en rentrait deux, ouais. Il en sortait un, puis des noms qu'on avait plus ou moins connus. Il y a eu toutes sortes de choses qui sont passées. Si on y va position par position, j'ai fait un peu l'exercice avec le collègue Bruno Gervais vendredi lors de notre dernier match qu'on a présenté sur les ondes de RDS. Devant le filet, Charlie Lindgren, Michael McNiven et Zach Fucale. Parlons d'abord de Lindgren, qui était censé être le gardien dominant ou un des bons gardiens de la Ligue américaine cette année. Est-ce qu'on peut parler de la gang de la deuxième année dans son cas? Ou en tout cas, ça a vraiment pas fonctionné. Là, puis il a été le premier à le reconnaître hier pendant le bilan des joueurs là, dans le vestiaire du Rocket hier matin.
Oui, exactement. Charlie Lindgren, seulement 8 victoires en 37 matchs. C'est simple, Lindgren a connu ses meilleurs moments de la saison lorsqu'il jouait pour le Canadien de Montréal et non pour le Rocket de Laval. Il n'a pas été capable vraiment d'être un gardien de but dominant. Il n'a pas été capable de faire la différence. Et puis oui, je sais que devant lui, globalement, là, défensivement, c'était laborieux. Mais des fois, il aurait pu faire davantage de la différence, davantage de gros arrêts. Il n'a pas été capable de le faire. On l'a senti là, nerveux et déconcentré à certains moments, frustré également lors de d'autres moments pour Charlie Lindgren. Et puis, c'est peut-être de cette façon-là qu'il va se terminer sa carrière dans la Ligue américaine parce qu'à partir de la saison prochaine, ben, il va amorcer un contrat de 3 ans avec un salaire garanti de la Ligue nationale, pourrait grimper là, comme adjoint à Carey Price. Ça a été une saison décevante pour Lindgren. C'est même pas lui qui a dominé les gardiens de but du Rocket pour les victoires. C'est Zach Fucale avec 10. Puis Fucale a fait 19 matchs de moins que Charlie Lindgren.
Ouais, Fucale, malgré tout, dans l'adversité, là, a su quand même tirer son épingle du jeu. Le seul gardien avec une fiche positive, comme tu le disais, 10 victoires contre 7 défaites. Dans le cas de Lindgren, 8 victoires. Et si on additionne les défaites en temps en supplémentaire et en tir de barrage, on parle de 8 victoires contre 30 défaites. Et McNiven, 6 victoires, 17 défaites. Alors, ça n'a pas été facile. Si on regarde en défensive, bon, Matt Tormina, c'est bien beau, 52 points parmi les meilleurs défenseurs offensifs, mais termine la saison avec un différentiel de moins 31. Si on parle de la brigade défensive en général, Éric Gélinas, oui, 13 buts, mais moins 24. C'est pas peut-être que le meilleur, d'une certaine façon, ça a été jusqu'à un certain point, là, Tom Parisi. Stéphane Leblanc a connu des bons moments aussi. Jolson a été rappelé, mais dans l'ensemble, on peut pas parler de grand succès pour la brigade défensive non plus. Là.
Non, parfaitement d'accord avec toi. Écoute, ça a été laborieux défensivement plusieurs soirs pour le Rocket de Laval. Et également, la transition offensive faisait défaut. Tu sais, c'est Matt Tormina est capable d'alimenter les attaquants, mais sinon, la rondelle peinait à sortir du territoire défensif du côté du Rocket. Et puis, une belle surprise quand même à la ligne bleue, c'est Simon Bourque.
Ouais.
Moi, je pensais pas que Bourque allait s'en tirer aussi bien à sa première saison professionnelle. Et puis, d'autant plus qu'il a été laissé de côté là, le trois quarts du temps lors de la première moitié de saison. Mais il est demeuré concentré, il est demeuré positif. Et puis finalement, Bourque, il a été blessé là en fin de saison. Il a raté les 5 derniers matchs du Rocket. Mais quand même, il a été le seul défenseur régulier du Rocket de Laval a terminé avec un différentiel positif. Il était à plus 2.
Ouais.
Ça, c'est quand même remarquable, considérant, exemple, que Tomina a fini à moins 31.
Oui. À l'attaque, bon, évidemment, on souligne le championnat des marqueurs de Chris Terry, qui termine la saison avec 71 points. Les gens se posent la question, ouais, mais comment se fait que le Canadien n'a pas rappelé? C'est pas un patineur très rapide. Puis défensivement, non. Ça a été difficile, lui aussi, à moins 33. Moi, Adam Cracknell, ça a été une révélation. Quand il est arrivé, on pensait pas qu'il aurait pu remplacer de façon offensive Peter Allen, parce qu'on avait été chercher quand même Alden pour des points, mais Cracknell a marqué 27 buts avec Laval. Peut-être les deux meilleurs d'une certaine façon. Le travail de Sherbach, les matchs qu'il a joué à Laval, a été excellent. 30 points en 26 matchs. Que retiens-tu de la brigade offensive du Rocket?
Ben, Cracknell, c'est la plus grande surprise selon moi, parce que bon, quand il était avec le Wolfpack de Hartford, là, ça n'avait pas fonctionné dans la Ligue nationale avec les Stars de Dallas ni les Rangers de New York en début de saison. Et puis avec le Wolfpack, il avait seulement 3 points en 15 matchs. Donc, quand on l'a acquis contre Peter Allen, tu sais, Allen avait ses torts, mais il était quand même à un point par match. Je me suis dit, OK, on échange pratiquement le meilleur attaquant contre un gars de troisième ou quatrième trio. Mais Cracknell s'est mis en marche avec le Rocket. Il a trouvé vraiment une bonne chimie avec Chris Terry. Et puis, il aurait mérité un rappel, selon moi, à Montréal, devant Michael McCarron en fin de saison. Mais on a voulu y aller avec un plus jeune parce que Cracknell a déjà 32 ans. Et puis, de l'aveu même de Sylvain Lefebvre, ben, c'est Cracknell qui a remplacé là, vraiment Byron Fraser comme capitaine du Rocket. Mais sinon, en attaque, bon, il y a plusieurs Québécois qui ont quand même bien fait là, devant les leurs. Jérémy Grégoire a doublé sa production. Ouais. Il s'est impliqué physiquement. Il a été un leader pour cette équipe-là. Et puis, Grégoire n'a pas de contrat en cet été, Stéphane. Donc, j'ai bien hâte de voir les plans du Canadien à son endroit. Et sinon, Jordan Boucher, tu sais, Boucher, il n'a pas des chiffres incroyables, mais considérant qu'il a commencé sa saison dans la East Coast, de terminer avec 10 buts, c'est quand même un bel exploit.
Et il a joué 70 matchs aussi, faut le mentionner. Ouais. La question maintenant qui est difficile à répondre, parce que bon, je le sais qu'on développe des liens avec ces bonhommes-là, mais le personnel d'entraîneur, est-ce que tu as l'impression que Sylvain Lefebvre sera de retour l'an prochain? Est-ce que Larry Carrière sera encore là? Est-ce que c'est un des endroits où il y aura des changements, comme l'ont promis Geoff Molson et Marc Bergevin, soit le personnel de direction du club école?
Ben, je pense que tu n'auras pas le choix considérant les 6 dernières saisons là, du Rocket de Laval. Mais mon feeling, c'est pas mon opinion personnelle, mais mon feeling, après avoir parlé à Sylvain Lefebvre à maintes reprises au cours des dernières semaines, c'est qu'au début, bon, en fin de saison, il était vraiment frustré, il était vraiment déçu. On voyait vraiment qu'il y avait de la peine par la tournure des événements. Et on a remarqué, là, Anthony Marcotte, mon collègue et moi, un changement d'attitude dans Sylvain Lefebvre au cours des derniers jours, au cours des dernières semaines, comme quoi qu'il était quasiment rendu serein. Et dans son bilan de saison, il a vraiment remercié à maintes reprises ses adjoints. Ça me laisse un peu croire qu'il voulait vraiment faire ses adieux publics à ses adjoints et que peut-être, comme le veulent un peu les rumeurs, ben il va être promu chez le Canadien d'entraîneur adjoint chez les défenseurs. Mais ça, c'est vraiment seulement mon feeling personnel. Mais je pense que en raison des résultats des dernières années, peut-être qu'un changement, un vent nouveau derrière le banc pourrait faire du bien là, au club d'école du Canadien.
Oui, 5 éliminations au cours des 6 dernières années. Et l'an dernier, une élimination en première ronde contre Syracuse. En tout cas, moi, ce que je retiens aussi, le côté positif, 6700 spectateurs en moyenne à la Place Belle à Laval cette année, 10e rang dans la Ligue américaine pour une première saison, compte tenu de toutes les difficultés que l'équipe a eues. Je pense que c'est chapeau à la population de Laval et du Grand Montréal là, qui est allé voir, peut-être un peu par curiosité aussi, le produit de la Ligue américaine et la Place Belle, en espérant que ces gens-là seront de retour l'an prochain. Mais moi aussi, je suis de ton avis, là, ça va prendre des changements parce que, écoute, dernier dans la Ligue presque toute la saison en désavantage numérique, combien de fois le Rocket a donné un but sur le début d'une attaque massive adverse? Tu avais l'impression que dans les 20 premières secondes, dès que tu perdais la mise en jeu en zone défensive, il y a un but qui se marquait. C'est arrivé encore l'autre soir contre Toronto. Ouais. C'est une belle aventure qui s'est amorcée, mais pas avec le résultat escompté. Je pense que, comme le dit le vieux proverbe, ils ne peuvent pas tomber plus bas. Ils sont 30e, alors ils pourront juste être meilleurs l'an prochain. Raphaël, merci beaucoup d'avoir été là tout au long de la saison avec nous. Puis on aura sûrement l'occasion là, de se recroiser très bientôt pour discuter encore du Rocket de Laval. Tu vas voir, les étés passent vite et ça, c'est pas long qu'on va recommencer à parler de hockey avec le Rocket en septembre prochain.
Ben, ça m'a fait plaisir, Stéphane, puis un gros merci à toi.
Voilà, donc merci beaucoup, Raphaël Doucette, collaborateur au RDS.ca et également analyste au match du Rocket au 98.5. Puisqu'il est question de la Ligue américaine, pour terminer notre segment là, dans notre balado-diffusion, ben, les séries éliminatoires vont s'amorcer au cours des prochains jours, enfin le prochain week-end. Et dans la section Nord, la section du Rocket, ce sera Toronto contre Utica et Syracuse contre Rochester. Syracuse, Toronto sont deux des trois équipes de la Ligue qui ont atteint le plateau des 100 points cette année. Donc, en principe, en deuxième ronde, si la logique est respectée, ces deux équipes-là pourraient s'affronter. Syracuse, qui à un certain moment était au dernier rang du classement général en début de saison, a su remonter la pente, bien guidé par l'entraîneur-chef Benoît Groulx. L'équipe qui a terminé avec 46 victoires, c'est presque le double de ce que le Rocket a fait en saison régulière. Alors voilà, ça termine un peu notre section sur la Ligue américaine de hockey. Du hockey de la Ligue américaine, on va parler du hockey de la Ligue junior majeure du Québec. Alors que les séries demi-finales vont s'amorcer à compter de vendredi. D'un côté, on aura les Islanders de Charlottetown, les surprenants Islanders de Charlottetown contre l'Armada de Blainville-Boisbriand. Et de l'autre côté, ce seront les Tigres de Victoriaville qui ont éliminé hier les Voltigeurs de Drummondville qui vont se mesurer au Titan d'Acadie Bathurst, le Titan qui participe au Carré d'As pour la première fois depuis 2006. Depuis donc 12 ans. Pour vous donner une idée, un petit peu la dernière fois que le Titan est allé dans le Carré d'As en 2006, avait perdu en 7 matchs en demi-finale contre les Remparts de Québec, qui étaient menés par Alexander Radulov. Alors, ça fait quand même un certain moment. Il y a un homme qu'on rejoint au téléphone présentement, je suis convaincu qu'il est très heureux de la tournure de la situation, c'est le directeur général du Titan, Sylvain Couturier. Sylvain, j'ai envie de te demander comment est la température à Bathurst présentement, parce que dans la région de Montréal, c'est pas évident.
Non, c'est pas évident ici non plus. Juste c'est froid, fait quand même un beau soleil, mais nous autres, c'est la neige, on y a goûté cette année, puis il reste passablement beaucoup de neige encore au sol. Donc, on va avoir des surprises, je pense, mais que le monde arrive à Bathurst là, du Québec. Je pense qu'ils vont être surpris par le nombre de pieds de neige qui reste ici à Bathurst.
Bon, on a oublié qu'on est rendu le 16 avril, on dirait. Dame Nature n'est pas notre côté. Écoute, Sylvain, je ne t'ai pas appelé pour évidemment parler de la température, mais parler de ton équipe. C'était le but évident. Ça, c'était le minimum, je pense, à atteindre là, l'étape des demi-finales. Vous y êtes avec toutes les transactions que vous avez complétées cette saison. Et là, ben, il y a une grosse série contre les Tigres de Victoriaville qui va commencer vendredi. Les deux équipes les plus vieilles de la Ligue, les deux équipes qui ont fait peut-être le plus de changements en saison qui vont s'affronter. Tu vois ça comment, cette série-là, là, qui va commencer vendredi à Bathurst?
Bon, écoute, nous autres, on s'attend à une longue série, c'est certain. Victoriaville a une très, très bonne équipe de hockey. On fait des acquisitions clés dans le temps des fêtes. Je pense que les Montpetit, Cormier, plusieurs là, noms se sont ajoutés à la formation. Mais c'est un peu le même portrait pour nous. Comme tu l'as dit, on était un club de maturité. On était un club qui a été chercher des joueurs clés dans la période des transactions. Puis surtout, je pense, le plus important pour nous, on était juste des gars d'expérience, un gars comme Galipo, plusieurs matchs d'expérience dans la Ligue, là, je pense au-dessus de 80 matchs là, en série. On a amené beaucoup de leadership, lui, des gars comme Esselin. Je pense que c'est des gars là qui prennent charge, des gars qui sont des leaders. Puis on est confiants, on pense ça le vieux cliché, là, un match à la fois, mais on s'attend pas à une série là en quatre, ça c'est certain, on s'attend à une longue série.
L'acquisition d'Evan Fitzpatrick devant le filet, bon, il y a eu des points d'interrogation que certains ont émis lorsque cette transaction-là a été faite, parce qu'on le sait, Fitzpatrick connaissait pas une bonne saison à Sherbrooke. C'est un gardien repêché dans la Ligue nationale, mais je regarde ses chiffres en série. C'est sûr qu'il y a une bonne brigade défensive en avant de lui, peut-être la meilleure de la Ligue junior majeure du Québec, là, avec les piliers que vous avez. Tu as parlé de Galipo, de Hallwell, de Dobson, mais Fitzpatrick va très bien présentement, là, 1,79 puis 930 de taux d'efficacité.
Oui, non, Evan, honnêtement, depuis son arrivée à Bathurst, va très, très bien. Ses chiffres là, en saison régulière ont été excellents aussi. Non, je pense que c'est un risque qu'on a pris, c'est certain. Mais on savait là, que le potentiel de Evan était là. Puis je pense qu'un échange comme celle-là était bon pour les deux équipes. Je pense que c'est deux gardiens de but qui avaient besoin d'un changement d'air. Puis on s'attendait là, ou on espérait en tout cas que Evan, là, le changement d'air serait profitable pour lui. Puis c'est exactement là ce qu'il nous a donné. Je pense qu'il y a eu un départ sans chancelant ici avec les deux premiers matchs, mais après ça a été impeccable. Puis ça s'est continué là dans les séries. Fait qu'on est très, très satisfait de cette transaction-là. je pense que Vince Fitzpatrick nous donne du gros hockey présentement.
Est-ce que vous êtes aussi satisfait, Sylvain, du travail de German Rubtsov? C'est quand même un choix de première ronde des Flyers et on peut pas dire là, qu'il a, il joue bien. Là. Je regardais le match mercredi quand vous avez éliminé Sherbrooke. Il joue pas mal, mais il me semble qu'un gars comme ça devrait ressortir un peu plus. Est-ce qu'il nous garde le meilleur là, pour les étapes qui s'en viennent? Comment tu le vois?
Ben moi, pour être honnête, quand on a fait la transaction avec... c'est sûr qu'offensivement, on s'attend à des choses de German. Mais j'ai appris à connaître German. Puis c'est un gars que même s'il ne marque pas, est très, très utile à une équipe de hockey. Son jeu défensif est impeccable. On peut le mettre contre n'importe quel gros trio des autres équipes. En infériorité numérique, et un des très bons joueurs que j'ai vu. Sur la feuille de pointage, peut-être pas la feuille autant qu'on aimerait, mais la dimension qu'il nous amène est très importante pour nous. Je pense que tu l'as dit, tu l'as vu jouer là, l'autre match, puis et c'est un très bon joueur de hockey, ça c'est sans équivoque, pas été repêché en première ronde pour rien. Puis au-delà des chiffres, je pense qu'il nous donne du très bon hockey, puis on est très satisfait.
Sylvain, est-ce que tu sens une fièvre un peu à Batters? On le sait, c'est pas un marché qui a été beaucoup gâté dans les dernières années. Les partisans se font tirer l'oreille. Là, évidemment, les assistants augmentent. Vous êtes rendu en quart de finale, en demi-finale. Est-ce que tu ressens un petit peu ce qu'il y avait peut-être à Batters là, au tournant des années 2000, quand cette équipe-là s'est amenée là-bas, lorsque les Oogie Morissette avaient déménagé le Titan de Laval à Batters, où on a gagné la Coupe du Président la première année, où on est allé en finale deux autres années. Il y avait un gros engouement dans ce coin du Nouveau-Brunswick. Est-ce que tu ressens un peu la même chose?
Oui, la fièvre est définitivement installée à Batters. Je pense que nos quatre ou cinq derniers matchs, là, on a atteint le 3500 là, dans le chiffre pour les spectateurs. Puis ce matin, là, c'est l'ouverture des billets pour les détenteurs de billets de saison. Puis honnêtement, il doit y avoir 200 personnes à la porte qui attendent présentement. Là. Donc, la fièvre du hockey est revenue. Je pense qu'il y a un engouement, comme tu l'as dit. Le monde est excité. Puis définitivement, là, que ça paraît surtout pour nous, les joueurs. Je pense que on commence à s'habituer à avoir la cabane pleine, comme on dit. Puis c'est le fun. C'est vraiment plaisant pour les joueurs. C'est plaisant pour l'organisation. Je pense que les nouveaux propriétaires... on met beaucoup de temps, beaucoup d'argent là-dedans, puis je pense qu'ils méritent amplement ce qui leur arrive présentement. Là.
On s'entretient avec Sylvain Couturier, directeur général du Titan. Je vais te laisser aller, Sylvain, mais je ne peux pas faire autrement que de te poser une petite question sur Sean et les Flyers. Ça leur en a pris du temps à savoir que Sean était capable de marquer des buts à Philadelphie?
Ben, écoute, c'est, honnêtement, c'est ça. Une équipe de hockey, c'est chaque joueur a des rôles différents. Je pense que Sean a commencé dans la Ligue et a été identifié là, en arrivant dans la Ligue nationale comme un joueur un spécialiste de la défensive. Puis là, il a eu son break, comme on dit, il en a profité. Mais écoute, non, Sean est bien. C'est sûr que jouer avec un gars comme Claude Giroux, on se cachera pas que ça l'aide les productions offensives aussi. Mais je pense, comme je disais, Sean mérite ce qui arrive parce qu'il a attendu, il a été patient, puis il démontre là, qu'il est amplement capable de remplir ce rôle-là.
Alors toi, ça te fait des soirées occupées là, avec ton Titan puis avec les Flyers à la télé présentement contre les Pingouins?
Non, c'est la fièvre du hockey à maison, ça c'est certain, oui.
Ben écoute, Sylvain, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Bonne chance. Je continue à réfléchir à ma prédiction. Je t'avoue que c'est pas évident dans cette série-là comment je vais voir ça. Là. Je pense que la plupart des observateurs s'accordent pour dire que Blainville va l'emporter contre Charlottetown, mais votre série, là, va me donner peut-être encore une journée ou deux avant d'y penser. Puis de toute façon, si je vous mets gagnant puis vous gagnez, ben je dirais que je l'ai eu puis que j'avais raison. Puis si je vous mets perdant puis vous gagnez, ben je dirais que je vous ai motivé.
Exactement. Pas de problème.
Salut Sylvain.
On va vivre avec les deux.
Salut Sylvain, okay. Merci beaucoup.
Merci.
Voilà, ouais. Sylvain Couturier, directeur général du Titan d'Acadie Batters et aussi père de Sean Couturier des Flyers de Philadelphie qui a connu toute une saison, qui est en lice pour le trophée Frank Selke cette année. Lui qui, c'est vrai, comme Sylvain disait, là, a rongé un peu son frein sur le troisième trio des Flyers pendant quelques années. Et là, cette année, l'explosion offensive. On revient sur cette élimination hier des Voltigeurs de Drummondville à Drummondville contre les Tigres de Victoriaville. Évidemment, bon, ça s'est fait en cinq matchs. La série a quand même été âprement disputée. Hier, honnêtement, après deux périodes, c'était 0-0 et j'ai mis sur mon compte Twitter que c'était un des meilleurs matchs que j'avais vu cette saison. Et je persiste à dire encore, là, les Tigres l'ont finalement apporté 3-0 avec un but dans un filet désert, donc 3 buts en troisième période. Après le match, on a recueilli les commentaires de Dominique Ducharme. Vous allez entendre un peu ses commentaires sur la série. Mais surtout à la fin, là, peut-être les 45 dernières secondes, où il a été question de son avenir. Puis évidemment, là, Dominique Ducharme ne s'en est pas caché. Un saut chez les professionnels l'intéresse. Dois-je vous rappeler qu'il est devenu, dans le temps des fêtes, le 4e entraîneur canadien de l'histoire à pouvoir se vanter d'avoir une médaille d'or au championnat du monde et une Coupe Memorial. Coupe Memorial qu'il a gagnée avec Halifax en 2013. Alors, voici donc les commentaires hier à la fin de la rencontre de Dominique Ducharme. Il nous parle d'abord de la série, de la défaite de son équipe, des jeunes joueurs. On parle de la possibilité de voir Joe Veleno et Olivier Rodrigue se rapporter à l'équipe canadienne des moins de 18 ans. Et à la toute fin, des commentaires sur son avenir.
Ouais, ben, tous les matchs ont été... On a été serré. On joue une bonne équipe. C'était pas un match-up facile pour un deuxième tour. Mais on a une jeune équipe. On a appris toute l'année. On a eu une belle saison. Puis ça fait partie de notre apprentissage de jouer une série puis de savoir comment ça fonctionne. Je pense qu'on a grandi beaucoup. Ouais. Tu vois la maturité, autant physique que mentale. Quand on parle de détails, quand on parle de petites batailles de plus qui sont gagnées. En bout de ligne, c'est une équipe qui est une bonne équipe, c'est une équipe qui est mature, qui est vieille. Donc, je pense à la jouer.
Là, vous savez que ce serait pas une série facile. Dirais-tu que lorsqu'on vient un petit peu... La série dans son ensemble, tu sais, dans le fond, vous êtes allé chercher de l'expérience. Puis aussi, une des plus belles affaires de ça, c'est l'engouement des partisans. C'était assez incroyable ici.
Ouais, on l'a vu depuis Noël, période des transactions Noël. T'sais, de plus en plus, les gens de Drummondville ont rempli l'aréna. Puis on l'avait dit avant le début de la série que ça serait bon pour le hockey dans le centre du Québec. Tu vois, les deux arénas étaient remplies, une bonne atmosphère, une bonne ambiance. Il y a beaucoup de positif.
As-tu cru bon leur faire un dernier discours tout de suite après la défaite dans le vestiaire pour les...
Oui, il y a toujours, un petit mot. Ce ne sont pas des moments qui sont évidents, faciles. Ou c'est pas un discours qui est facile à trouver les mots, les bons mots. Mais... je leur ai dit, on était l'équipe la plus jeune de la Ligue quand on a commencé la saison. Puis, de la façon qu'ils se sont comportés, l'ajout de nos vétérans, puis de la façon qu'ils ont montré l'exemple. C'est une des raisons pour lesquelles on était allé chercher, c'était de partir nos jeunes avec des joueurs qui jouent de la bonne façon, qui ont une bonne attitude, qui ont du leadership. Donc, ça a été positif. On a une belle saison. Après les transactions, on était deuxième plus jeune équipe de la Ligue. Donc, de se rendre, de finir cinquième, d'être au deuxième tour, on a perdu, on aurait aimé ça continuer, c'est certain. Mais en général, on peut dire que 2017-2018, ça a été positif pour les Watchers. Les noms
et
Rodrigue
sont
sûrement
18
ans. Je sais que nos joueurs sont intéressants pour Hockey Canada, pour le tournoi, il y a des chances qu'ils soient invités. On va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois.
Ça t'a-tu croisé la tête aujourd'hui que ça se passe?
Il y a tellement de rumeurs, de choses qui se disent. C'était pas là-dessus, j'étais concentré. Après avoir donné la main, être dans le milieu de la glace avec notre équipe, j'y ai pensé, mais en même temps, c'est pas ça veut rien dire.
Est-ce que tu te sens prêt à faire le saut chez les pros?
Oui, je me sens prêt, mais tu sais, on contrôle ce qu'on peut contrôler.
On contrôle ce qu'on peut contrôler. Hein? On contrôle ce qu'on peut contrôler. Alors, c'est ce que Dominique Ducharme a dit. Il y en a plusieurs qui le voient, évidemment, prendre peut-être la relève de Sylvain Lefebvre avec le Rocket de Laval si jamais, évidemment, les changements que plusieurs anticipent surviennent. On verra bien ce qui va se passer au cours des prochaines semaines. Tantôt, je vous disais, avant de passer l'extrait d'entrevue, qu'il est devenu le quatrième entraîneur-chef de l'histoire à gagner la Coupe Memorial et la médaille d'or. Les trois autres qui l'ont fait ont tous dirigé en, comme entraîneur-chef dans la Ligue nationale. Alors, est-ce que Dominique Ducharme va suivre ce mouvement, cette constante, si on veut? Ben, on lui souhaite. Est-ce que ce sera dans la Ligue nationale l'an prochain? Peut-être pas facile de faire le saut directement de la Ligue junior majeure du Québec à la Ligue nationale, mais assurément un poste dans la Ligue américaine. Il avait été interviewé l'an dernier par les Blackhawks de Chicago pour diriger le club école dans la Ligue américaine. Finalement, n'avait pas eu le poste. Alors, est-ce que cette année, ce sera la bonne? Chose certaine, il laisse un bel héritage à Drummondville parce que cette équipe-là, elle est jeune, elle est remplie de talent là, pour les deux prochaines saisons. Les gens vont avoir du plaisir à Drummondville. Peut-être vous parler des autres actualités dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Ce matin, on a appris que le directeur général des Wildcats de Moncton, Roger Shannon, avait été congédié, remercié par l'organisation des Wildcats après 4 ans comme directeur général. Monsieur Irving l'a remercié pour les services rendus. Les Wildcats, qui pourtant avaient causé une surprise en première ronde en éliminant l'Océanique de Rimouski. Donc, on va se tourner dans une autre direction pour le poste de directeur général à Moncton. Philippe Boucher, à Québec, la semaine dernière, a pris un peu la planète hockey junior par surprise en annonçant qu'il ne serait pas de retour. Et là, la machine à rumeurs s'est emballée. Est-ce que Patrick Roy effectuera un retour dans la LHJMQ? On verra bien. Moi, je suis de ceux qui disent que Patrick aimerait peut-être mieux un retour dans la Ligue nationale, mais question d'alimenter les discussions. Hier, Patrick était au match à Drummondville. Il a assisté à la rencontre entre les Tigres et les Voltigeurs. N'a pas voulu accorder d'entrevue toutefois, mais il était bien là pour suivre le match. Serge Beausoleil de l'Océanique de Rimouski, prolongation de contrat de 3 ans comme entraîneur-chef et directeur général. Si je disais qu'à Drummondville, les gens vont avoir du plaisir au cours des prochaines années, ça va être la même chose à Rimouski, avec un bonhomme comme Alexis Lafrenière qui va sûrement en mettre plein la vue aux partisans du Bas-Saint-Laurent au cours des 2 prochaines saisons minimum. On ne s'est pas parlé depuis le 4 avril, alors il s'est passé plein de choses, notamment les Moussettes d'Halifax qui ont obtenu la présentation du tournoi de la Coupe Memorial. C'est maintenant officiel, l'an prochain ce sera à Halifax, mais les Moussettes qui auraient peut-être voulu prendre un peu plus d'expérience cette année en série se sont fait montrer la sortie en 4 matchs consécutifs par les Islanders de Charlottetown. Donc les Moussettes sont éliminés. Et il y a les Saguenay de Chicoutimi qui ont gagné la loterie de la Ligue de hockey junior majeure du Québec pour obtenir le premier choix. Et ça, ben, c'est un message en même temps aux partisans du Canadien qui voient le Canadien au 4e rang présentement du repêchage avec seulement 9% des chances de gagner la loterie. Ben, les Sags au niveau junior étaient exactement dans la même situation. 4e au repêchage, 9% des chances de gagner la loterie et ils l'ont gagné. Alors, comme quoi, tout peut arriver. Cette loterie de la Ligue nationale qui aura lieu dans une dizaine de jours, soit le 28 avril prochain. C'est là qu'on va savoir l'ordre du repêchage. Le championnat mondial des moins de 18 ans va prendre beaucoup de place au cours des prochains jours. À compter de jeudi sur les ondes de RDS, tous les matchs de l'équipe canadienne, en plus des quarts de finale, demi-finale et finale, seront présentés en direct de Russie sur nos ondes. Donc, 10 matchs à l'antenne de RDS. L'équipe canadienne qui joue présentement un dernier match préparatoire contre la Finlande en Russie. L'équipe n'est pas encore officiellement nommée. Il y a 18 joueurs, là, 18 joueurs et 3 gardiens de but qui sont en Russie présentement, qui ne seront pas nécessairement tous de la formation, parce qu'évidemment, les dirigeants de Hockey Canada attendaient les éliminations des équipes là, en deuxième ronde pour compléter la formation. Tantôt, avec Dominique Ducharme, vous avez entendu, on a effleuré le sujet de Joe Veleno et de Olivier Rodrigue. Vraisemblablement que ces deux joueurs vont être appelés à joindre l'équipe canadienne en Russie. Ils ne seront peut-être pas là à temps pour le premier match jeudi, mais faisaient partie des plans. Même chose pour les joueurs éliminés des Moussettes d'Halifax, Raphaël Lavoie, Benoît-Olivier Gros et Jared McIsaac, qui se sont envolés également pour la Russie. Donc, l'équipe canadienne va quand même bénéficier là, de 5 ou 6 joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Alexis Lafrenière est déjà là. D'ailleurs, il a obtenu 1 but et 1 passe dimanche dans le premier match préparatoire de l'équipe. Même s'il n'a que 16 ans, il fait partie des plans de la formation canadienne cette année. Donc, le premier match dès jeudi, c'est ni plus ni moins le gros test en partant contre les États-Unis, qui chaque année, les États-Unis sont la formation favorite et la formation favorite de ce tournoi. Pourquoi? Parce que les joueurs jouent ensemble toute l'année. Le programme des moins de 18 ans est un programme qui arrive à maturité avec ce tournoi des moins de 18 ans. Par la suite, les joueurs quittent et s'en vont pour la plupart dans des universités américaines différentes. Alors, les États-Unis, toujours l'équipe à battre dans ce tournoi. Le Canada qui, parce que le tournoi est un petit peu plus tard cette année, va quand même bénéficier d'un petit peu plus de profondeur, mais n'aura pas tous ses éléments. On n'a qu'à penser à Noah Dobson du Titan d'Acadie Batters, qui est encore en série avec le Titan, qui ne participera pas au tournoi. C'est sûr que si le Titan avait été éliminé, Dobson aurait fait partie de l'équipe canadienne. Mais ça fait partie de la réalité Ça fait partie de la réalité de ce tournoi. Alors, c'est donc important d'en tenir compte, si on veut, dans l'évaluation des forces en présence dans ce tournoi-là. La Ligue nationale de hockey vient tout juste de publier son relevé final des meilleurs espoirs en vue de la séance de sélection de 2018. Sans surprise, le meilleur espoir en Europe est Rasmus Dahlin, qui a joué évidemment qui a joué en Suède cette année, qui demeure le meilleur espoir. Et en Amérique du Nord, celui qui est classé au premier rang, c'est Andrei Svechnikov des Colts de Barrie, qui devance Brady Tkachuk, qui est au deuxième rang. Philippe Zadina est au troisième rang. Evan Bouchard des Knights de London au quatrième rang. Et je vous parlais de Noah Dobson il y a quelques instants. Il est classé au cinquième rang de la centrale de recrutement de la Ligue nationale. Donc Dobson qui a gagné des places pour le repêchage qui aura lieu à Dallas cette année. Dobson qui était huitième sur le relevé du mois de janvier et là vient de grimper au cinquième rang. Parmi les autres joueurs de la Ligue junior majeure du Québec qui sont classés en première ronde, Joe Veleno a grimpé au huitième rang avec les Voltigeurs de Drummondville. Alors, sa venue à Drummondville a vraiment été salutaire. Jared McIsaac est au 13e rang des Mooseheads d'Halifax. Benoît-Olivier Groulx, également des Mooseheads, est 20e sur la liste. Et Nicolas Beaudin, des Voltigeurs de Drummondville, fait son entrée en première ronde au 31e rang en Amérique du Nord. Alors, c'est un très bon relevé là, pour la Ligue de hockey junior-major du Québec qui devrait connaître une très bonne journée à Dallas en juin prochain. Alors, c'est tout chaud. Ça vient d'être publié là, par la Ligue nationale de hockey. Petit mot de Midget 3A également. C'est lundi prochain que va se mettre en marche la Coupe TELUS. Les représentants du Québec sont les cantonniers de Magog, dirigés par Félix Potvin. Donc, les cantonniers qui vont tenter de ramener le championnat canadien Midget au Québec, tournoi qui n'a pas été gagné par une formation québécoise depuis 2001. Donc, ça fait 17 ans là, que ce championnat échappe au circuit midget québécois. Les cantonniers de Magog qui ont gagné en finale en 4 matchs contre les Estacades de Trois-Rivières. Donc, ils vont représenter la Ligue à ce tournoi pour la première fois depuis l'an 2000 et la seule fois où les cantonniers ont participé à ce tournoi. C'est un tournoi qui avait lieu à Montréal à l'an 2000 et les cantonniers l'avaient emporté à l'époque dirigé par Mario Durocher. Alors, cette fois-ci, c'est Félix Potvin qui sera à la tête de cette équipe. Je ne peux pas vous laisser avant de terminer en revenant sur cette terrible tragédie qui a eu lieu le 6 avril alors que l'autobus des Broncos de Humboldt en Saskatchewan, cet accident là, qui fait tellement jaser dans le monde du hockey et qui a probablement réuni le hockey partout dans le monde. Quand un événement comme cela survient, c'est vraiment tragique et ça unit 16 victimes qui ont perdu la vie dans cet accident. Moi, je ne peux pas faire autrement. J'ai publié un texte le lendemain de cet accident en me disant « On est chanceux que ça n'arrive pas plus souvent » et je persiste à dire ça très souvent quand on me parle de cette tragédie-là. Nos pensées accompagnent évidemment toutes les victimes à Humboldt, en Saskatchewan et partout dans le monde où il y avait des joueurs de l'Ouest canadien également qui ont été impliqués dans cet accident. On leur souhaite bon courage, c'est ce qu'on peut faire, mais je suis tellement heureux de voir comment le mouvement a pris de l'ampleur, la solidarité à tous les niveaux. On a des levées de fonds qui se font en Europe présentement pour les Broncos de Humboldt, une équipe que personne ne connaissait le matin du 6 avril et qui aurait probablement, comme j'ai lu sur un texte avec justesse, aurait préféré demeurer inconnu le 7 avril, mais malheureusement, en raison de cet accident qui est survenu en route pour un match dans la Ligue junior de la Saskatchewan, on va se souvenir des Broncos de Humboldt pour toujours. Cet accident-là a frappé l'imaginaire. Alors, bon courage à tous ceux qui sont impliqués là-dedans. Je ne sais pas s'il y a des gens à Saskatchewan qui nous écoutent via la balado-diffusion. C'est ce qu'il y a de merveilleux avec l'Internet aujourd'hui, c'est qu'on peut rejoindre beaucoup, beaucoup de monde. Alors, je voulais absolument faire une petite mention là-dessus, vu qu'on n'a pas eu de balado-diffusion la semaine dernière. Comme je le disais en début d'émission aujourd'hui, c'est notre dernière édition de Sur la glace. C'est un projet qui a été lancé là, par RDS au début du mois d'octobre. On aura eu 24 balado-diffusions tout au long de la saison. J'espère que ça vous a plu. Je veux remercier tout le monde qui est derrière ce projet-là, à commencer par Luc Dansereau, qui est notre directeur technique, mais aussi un peu notre recherchiste, un peu notre homme à tout faire. Alors, merci beaucoup à Luc. Nos collaborateurs réguliers pour la Ligue américaine, on a entendu Raphaël Doucet plus tôt, Bruno Gervais, Patrick Friolet, et plein de gens là, qui se sont joints à nous tout au long de la saison, que ce soit pour parler de hockey junior, de hockey midget, Même, on a fait des entrevues avec des espoirs là, du Canadien un peu partout. On a fait des entrevues avec des joueurs de la Ligue américaine. Alors, j'espère que ce projet-là vous a plu. Très bonne chance qu'on reconduise tout ça en octobre prochain, lors du début de la prochaine saison. Je vous invite à suivre, à compter de jeudi, le Mondial des moins de 18 ans sur les ondes de RDS. Si vous aimez parler des jeunes espoirs, si vous voulez faire votre analyse des meilleurs espoirs, ben, c'est l'endroit à rêver. Vous allez voir là, 22 Canadiens en uniforme, dont 18 ou 19 sont des espoirs pour cette année, vont jouer contre les États-Unis dès jeudi. Vous voulez voir jouer Oliver Wahlstrom, là, qui fait partie des meilleurs espoirs. Vous voulez voir jouer ces bonhommes-là, ben, c'est l'occasion jeudi de les voir sur les ondes RDS. Et on va être là comme ça jusqu'à la grande finale de ce tournoi qui est prévu pour le 29 avril. Et parlant du 29 avril, ce sera la finale de la Coupe TELUS qui sera présentée également à RDS. On espère que les cantonniers de Magog en feront partie. Voilà, c'est ce qui complète notre balado-diffusion aujourd'hui, 16 avril. Merci à toute l'équipe d'avoir été là et on se revoit très, très bientôt. Merci, au revoir.